Alternative positive, la parole aux artistes du Val d'Oise.
Bonjour, c'est Claude Mentz, vous écoutez Alternative FM.
Monsieur Mentz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste, vous avez à votre actif plusieurs peintures, vous avez créé des jeux de cartes ainsi qu'un jeu de gris. Bienvenue au studio d'Alternative FM. Quel est votre parcours? Quand est-ce que vous avez commencé à créer, à faire vos œuvres, ainsi que la création de vos jeux de cartes?
Bonjour, je m'appelle Claude Mentz, je suis éboueur à la ville de Paris depuis 2010. Je suis arrivé en France en 1999. J'étais animateur dès mon arrivée,
animateur
socio-culturel.
Oh, super!
Voilà. Et puis, de l'animation, je suis passé à la ville de Paris en tant qu'éboueur. Entre autres, j'ai commencé à peindre de façon solitaire, sans aucune formation. À l'école, par exemple, je n'ai pas dessiné, donc, enfin, à part les exercices qui étaient donnés. Je ne me souviens pas d'avoir eu un talent particulier d'artiste.
D'accord.
Tout s'est révélé ici en France. J'ai commencé à dessiner et puis à peindre. Et par la suite, j'ai voulu faire des poèmes, mais je ne me sentais pas très doué, donc j'ai fait des courts textes et puis je me suis mis à faire des jeux et puis à écrire.
Vous avez fait plein de jeux de cartes. Vous avez commencé par quoi?
Par la peinture. La peinture, dessin en même temps en fait.
Ok. Alors aujourd'hui, vous nous avez ramené une peinture. Vous en avez fait combien déjà?
Un grand nombre.
Un grand nombre.
Oui.
Est-ce que vous
en... C'est des centaines en fait.
Une centaine de toiles.
Des centaines.
Aujourd'hui, vous nous avez ramené une toile. Est-ce que vous pourriez nous la montrer, même si les auditeurs ne voient pas, pour qu'on puisse au moins la décrire?
Oui.
Vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Mentz a un talent qu'on aimerait mettre en lumière sur la radio locale de Persan. Une association culturelle du Val d'Oise est venue dans la radio pour me parler de cet artiste. On m'a parlé des jeux qu'il a créés, des jeux de cartes, le jeu de gris également, qui ressemble un peu à du sudoku, un jeu qu'on joue souvent quand on est dans le train, quand on attend dans une salle d'attente également. Est-ce qu'on peut la voir, la peinture? Alors, il nous a ramené une peinture. Alors, c'est une... Je vais la prendre dans mes mains. Voilà, on va la montrer comme ça. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre peinture? Elle est en relief, on peut dire que c'est du relief parce qu'il y a des petits bonhommes. Comme, comment ça s'appelle?
Les joueurs du baby-foot.
Voilà. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre...
Les joueurs du baby-foot, oui.
Oui. Alors, quand est-ce qu'elle a été créée, cette œuvre, et dans quelles conditions, pourquoi?
Elle a été créée il y a 3 ans, et c'est un tableau mixte entre peinture et collage du bois, et l'assemblage du bois, et des manettes des joueurs du baby-foot. Alors il s'agissait pour moi de... Enfin, le titre du tableau, c'est La Vague. En hommage à la vague qui se déploie lors des matchs des grandes... des football.
Vous êtes fan, hein?
Oui.
Vous regardez
oui.
Tous les matchs.
Oui.
Vous soutenez quelle équipe,
hein? Je suis plus pour le foot, en fait.
Le foot, tout football, simplement.
Tout simplement.
Ok.
Mais en fait, il s'agit d'une double vague, donc celle du public, et puis la vague qui constitue l'avancée des éléments du tableau en dehors du tableau, vers l'avant, vers le spectateur. Donc c'est une vague qui déferle, en fait, vers nous.
Alors, est-ce que vous pourriez recommencer? Parce que là, je n'ai pas bien compris. La vague, elle vient vers les spectateurs.
Il y a une première vague qui est celle qui est des spectateurs sur les gradins et tout.
Mm-hmm.
Et puis la deuxième vague qui est... La plat du tableau, les éléments ajoutés, le bois et les joueurs du baby-foot qui sont une sorte de d'excroissance comme ça vers le spectateur en fait.
Mm-hmm.
Et donc, comme une vague qui part du large vers le rivage.
Le choix des couleurs, est-ce que vous pouvez nous en parler? Dans les petits bonhommes, je comprends qu'ils soient peints en noir parce que c'est un peu, ils sont dans l'ombre. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est à chacun sa façon d'interpréter un tableau qu'on voit aussi. Hein?
Oui, en fait, moi, ce que je vois au niveau du public que j'ai représenté par des points, c'est l'effervescence, en fait. C'est la fête. La fête du sport. La fête du jeu. du jeu en fait.
Ok. J'ai regardé également vos tableaux sur votre site internet. Est-ce qu'il y a certains tableaux qui cachent quelque chose ? Parce qu'il y a un des tableaux, je ne me rappelle plus du nom. Peut-être que mon collègue se rappelle du nom de ce tableau où, à un moment donné, on a l'impression de voir un visage. Est-ce que ça vous arrive de peindre en vous disant qu'il y aura quelque chose derrière ?
Alors, la plupart de mes tableaux sont peints 3 ou 4 fois. C'est-à-dire que je reviens parfois sur des tableaux que j'ai déjà peints, comme ça, sans aucune explication. Il m'importe souvent peu de dissimuler l'ancien travail que j'ai fait.
D'accord, ça peut arriver que sur un tableau, il y a des jeunes peintures et vous refaites une autre peinture
par-dessus, qui n'a rien à voir avec la première en fait.
D'accord, pourquoi vous voulez l'effacer, vous mettre autre chose dessus?
Alors, peut-être que je suis souvent animé par le sentiment de... Le fait que je n'ai pas eu une formation académique, et donc je me dis sûrement il n'est pas assez abouti, alors je passe dessus. Voilà.
C'est ok. Un peu ça. Vos peintures, vous en avez plus d'une centaine. Où est-ce qu'elles sont ?
Elles sont rangées.
Elles sont ?
Elles sont rangées.
Rangées ?
Oui.
Est-ce que vous exposez ? Vous avez déjà exposé à Paris ?
Oui, j'expose. J'expose quand je peux. Parce qu'entre autres, je travaille donc à Ville de Paris et quand les occasions d'exposer me sont données, j'expose volontiers.
Vous avez fait combien d'expositions ?
Jusque-là, j'ai fait plusieurs expositions. Des expositions organisées par des mairies.
Dans le Val d'Oise ?
Dans le Val d'Oise, oui. Dans le 93, où j'ai habité avant d'être dans le Val d'Oise aussi.
Et quels sont les retours du public ?
Généralement, c'est des retours assez positifs.
Je pense. Vous faites ça uniquement pour le plaisir ? Quand on peint 2 ou 3 tableaux, je peux comprendre, mais une centaine de tableaux quand même, c'est beaucoup.
Je me sens plus à l'aise en faisant plusieurs choses en même temps et parfois à la suite les unes des autres. Et oui, j'aimerais bien en vivre, mais bon, ça ne pose pas de problème parce que j'ai un travail déjà. Et donc,
Pourquoi vous peignez ? Et à quel moment vous faites ça ? Est-ce que c'est un moment où vous avez envie d'exprimer quelque chose, ou vous ne sentez pas bien, vous isolez au moment de la création ?
Je me suis rendu compte au fil du temps que j'avais des périodes où je peignais, des périodes où j'écrivais, des périodes où je créais des jeux au cours de l'année.
Vous peignez, vous créez des jeux et vous avez écrit 2 livres aussi, on va y venir.
En fait, c'est 3.
Trois, ok. Pour les peintures, vous disiez ?
Alors, les peintures, je ne me souviens plus, c'est quoi, c'est en hiver que je peins ? Les jeux, c'est quoi, c'est au printemps ? Les jeux, je fais beaucoup de jeux au printemps. Et en été... J'écris des textes plus longs.
Lorsque vous peignez, vous êtes seul ?
Je suis souvent seul, je peins toujours seul.
Est-ce que vous êtes déjà intervenu en milieu associatif ?
C'est la première association qui s'est rapprochée de moi, c'est celle qui vous a contacté.
L'association culturelle,
oui.
D'accord. Auprès, par exemple, d'enfants ?
J'aimerais bien, mais je suis assez renfermé.
Est-ce que vous aimeriez qu'on expose vos œuvres?
Volontiers.
Oui. Ici, à la radio, c'est ça la question?
À la radio, ou si un auditeur peut...
Ah non, mais à la radio d'abord. Non, à la radio d'abord. Oh, c'est une très bonne idée, Hakim. C'est une très bonne idée. On va profiter de cette interview pour être sûr qu'on aura une vraie réponse. Est-ce que vous accepteriez d'exposer quelques tableaux ici même dans le studio?
Oui, volontiers.
C'est fait pour ça. Merci, Hakim. Pour cet été, vous exposez ou pas?
Cet été, je n'ai pas d'expo de prévu.
J'ai vu une de vos expositions à Paris. Il y a une chaîne de télé qui était venue à votre rencontre en 2016, je crois. Qu'en est-il ressorti de ce reportage ? Est-ce qu'il y a eu des retombées ? Parmi les visiteurs, il y a une dame qui avait dit qu'il me fait penser à quelqu'un, cet artiste. Il me fait penser à un autre artiste. Je ne me rappelle plus du nom. Mais vos peintures faisaient penser aux peintures d'un autre artiste, un grand artiste connu. Vous vous souvenez plus de cette rencontre ?
C'est pas que je me souvienne pas, mais c'est que je ne regarde jamais des images de moi.
Ah. Vous n'avez pas vu le reportage.
J'ai une très mauvaise image de moi et donc je ne regarde jamais.
Ah, c'est dommage.
Je ne m'écoute jamais non plus.
Et est-ce que vous les vendez, vos peintures, ou pas ?
Oui, j'aimerais bien vendre, mais je n'en vends pas pour l'instant.
Pour l'instant, non. Mais c'est envisagé. Oui. Vous êtes père de famille.
Oui.
Vous avez appris à vos enfants à faire de la peinture. Non. Même si vous, vous n'avez pas été dans une école d'art, vous avez donné...
Non. On visite des musées, on visite des lieux culturels. Mais apprendre la peinture, je ne sais pas par quoi je commencerai, donc je n'ai pas vraiment eu à le faire. J'ai ma fille qui se débrouille pas mal.
Votre parcours est passionnant. On va parler des cartes maintenant. Donc, vous en avez créé combien ?
Fini, j'en ai 5 finis, parce qu'il y a plein en cours.
Il y a 5 jeux de cartes. Donc, alors, celui-là que j'ai dans les mains, c'est le jeu de...
Comment je crée, c'est ça qui est intéressant en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il suffit d'être dans un milieu pendant quelques temps. Je m'imprègne de la vie et j'imagine. En fait, si vous voulez, moi je vois des personnes et des situations comme des bâtonnets comme ça qui se déplacent. Mmh. Et donc comme des robots. Je recrée cela en situation ludique. Comme ça, le jeu. Donc là, il s'agit de la ville où je suis né, qui s'appelle Kribi. Il y a eu une activité de pêche, c'est une ville de pêcheurs. Donc mes parents étaient des pêcheurs. Et les matins, on se retrouvait à la plage et puis on attendait les pêcheurs de retour de la mer. Puis le poisson se vendait directement à la plage et ainsi de suite. Et donc c'est cette activité que j'ai modélisée et qui se joue comme ça.
Comment ? Alors comment on peut jouer ?
Il faut que je lise la règle du jeu parce que...
Vous vous souvenez plus. Je sais pas où elle est, la règle.
Si vous voulez, les cartes sont disposées à place sur le tableau et les joueurs reçoivent de l'argent pour pouvoir commercer, enfin acheter le poisson. Mm-hmm. Et vendre. En fait, ils sont à la fois pêcheurs, c'est-à-dire vendeurs de poissons et acheteurs à tour de rôle. Il y a une sorte de d'enchère qui va se déclencher.
D'accord. Ça se joue à plusieurs.
Ça se joue à plusieurs.
On voit dessus pirogue Batanga.
Oui, en fait, si vous voulez, c'était un hommage. Alors, moi, je me balade, je vais souvent dans les bibliothèques. Mm-hmm. Et je suis tombé dans un livre qui parlait des bateaux et puis qui parlait de la pirogue Batanga. Et j'étais très impressionné parce que c'était la pirogue de mon village qui est délaissée là-bas au profit des pirogues faites en bois parce qu'elles sont plus... elles peuvent être plus grandes et donc plus économiquement intéressantes. Mm-hmm. Et les nôtres sont faites directement sur un tronc d'arbre. Vous avez creusé dans la même...
D'accord. Voilà.
Et du coup, les pêcheurs délaissent ces pirogues-là. Cette pirogue-là pour celles qui sont faites en bois. Et du coup, elles sont en train de disparaître, en fait. C'est donc pour essayer de dire, faites disparaître quelque chose qui a une valeur culturelle et tout ça. Donc, j'ai fait ce jeu-là, dans ce sens-là.
Il est disponible partout, ou ça ?
Alors,
on peut se le procurer comment ?
Pour l'instant, j'en fais de petites quantités, parce que je les fais à compte personnel, c'est-à-dire que c'est moi qui les édite. Donc, je fais des petites quantités. Mm-hmm. Je ne peux pas faire de plus grandes. Pour la vente, je n'ai pas encore...
Combien de temps ça met pour créer un jeu ?
Alors, en fait, ça prend quand même du temps. Ça prend, parce qu'il y a le temps de concevoir, de imaginer le jeu, et puis après, le temps de des corrections et tout ça. Et puis, il faut que je joue pour voir quels sont les points qu'il faut améliorer.
Vous les testez avec vos enfants ?
Oui, ils
sont prêts. Bah ouais, c'est bien ça.
Ils ont un mauvais rôle là-dessus.
Ça vous est déjà arrivé de créer un jeu et après de vous rendre compte que malheureusement il fonctionne pas trop, de le changer?
Oui, ça m'est arrivé. J'avais créé un premier jeu sur la propriété des dents, sur la propriété sur la ville de Paris.
Et ils ont pas aimé ça?
Non, c'était très compliqué ce que j'avais fait au début. Je l'ai refait, mais c'est allé plus...
Et vous en avez fait quoi?
Ben, j'ai fait un jeu de plateau, comme sur de Monopoly. Toujours un petit exemplaire, pas un petit nom. D'accord. Parce que... faire un jeu comme ça, ça coûterait très cher.
Oui, c'est onéreux. Et l'objectif, c'était quoi ? De nettoyer les quartiers,
Non, l'objectif,
quel était le
quartier
c'était... Le plus sale.
L'objectif, c'était... il m'est arrivé une scène comme ça sur la route. J'étais avec des collègues et puis il y a une dame qui disait à son fils, s'il ne travaillait pas, ben, il va finir comme ça et tout.
Ah, il va finir éboueur, c'est ça ?
Voilà.
Et vous avez... créé ce jeu parce que vous étiez éboueur.
Oui. Ouais, non, je n'aurais pas pu le créer si je n'avais pas été éboueur.
Parce que vous avez trouvé pas mal de trucs, des choses inacceptables dans les rues, quoi.
Non, c'est pas dans le sens, c'est pas une critique de mon travail, non. C'était dans le sens de dire, enfin, c'est un métier comme un autre, déjà, pour commencer, et puis c'est un métier technique, il y a des c'est une vraie compétence en fait, si vous voulez. Donc je le valorisais, si vous voulez. Voilà, c'était un peu dans ce sens.
Et vous n'avez pas réussi à le faire, puisque vous avez abandonné le jeu.
Non, il est fait.
Il est où?
C'est le seul que j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose.
Et celui-là, on peut le retrouver à la mairie de Paris.
Alors, je vais essayer de voir avec mes chefs pour qu'ils soient présentés au moins au musée des éboueurs, en fait. On a un musée.
Oh, super. Il a été créé de quand, ce jeu? C'était le premier jeu, c'est ça?
C'est l'un des premiers. C'est pas le premier, mais c'est l'un des premiers, je crois, le premier.
En 2010?
Non, je l'ai fait en 2013, par là.
2013, et vous ne l'avez pas sorti encore? Vous n'avez pas demandé à ce qu'il soit mis en valeur? Pas encore? Vous hésitez?
C'est pas que j'hésite. Oui. En fait, tout ce qui est administratif, c'est pas trop mon point fort. En fait, création, ça va, mais...
C'est juste ça. Celui-là, ce jeu-là, il s'appelle comment?
Celui-là, il s'appelle Maï. C'est aussi un jeu qui tient son origine dans ma ville de naissance, qui est une toute petite ville au Cameroun, où il s'est passé une campagne de la Seconde Guerre mondiale entre les Franco-Britanniques contre les Allemands, en fait. Et donc, nous avons été déportés parce que c'était un terrain de guerre, en fait. Et donc, le jeu représente le retour parce que la population avait été déplacée et donc après la guerre elle est revenue et donc il s'agit tous les ans de faire une commémoration. Du coup j'ai essayé de proposer quelque chose d'autre que les festivités habituelles, donc j'ai fait ce jeu.
Il y a des dessins, il y a des filles et des garçons.
Oui, en fait ça c'est les personnages représentent les différents commune autour de la ville, en fait.
Comment on joue? Les règles du jeu, c'est comment?
On se partage des cartes et puis on doit essayer de retourner vers la ville et donc de retourner, de prendre le bateau parce qu'il y a des bateaux aussi. Il s'agit de voir le pavillon qui est... Oui. Il faut que le personnage sur la carte ait un pavillon, un drapeau identique à celui du bateau qui va être tiré. Mm-hmm. En fait, c'est très simple. Enfin, dès qu'il y a une non-correspondance, la carte est éliminée du jeu. Et dès qu'on a trois cartes identiques qui sont éliminées du jeu, la partie s'arrête.
Parce et c'est fini. On a gagné.
Non, on a perdu.
Ah, on a perdu.
L'idée, c'est que nous gagnons collectivement. Et donc, celui qui réussit à aligner trois drapeaux identiques, il freine cette possibilité-là, en fait.
Okay. Donc, on avance tous ensemble ou pas du tout?
Voilà.
Hein.
C'est dans ce sens-là, oui.
Voilà. Ok, ce jeu-là, c'est pour ça. Et ce jeu-là?
Alors, celui-ci, il est le plus facile.
Ah, ça, c'est braisé,
oui.
Du poisson.
Oui.
C'est quoi le bobolo?
Alors, c'est une sorte de pain de manioc qui est fait au Cameroun.
Le pain, le bobolo, c'est du pain?
C'est en fait, c'est du manioc pétri, en fait, cuit à la vapeur, je crois. Et donc l'idée c'est de gagner des poissons braisés à l'aide des bobolos.
Ok.
Et donc c'est un jeu de bluff, en fait. Vous devez essayer de faire deviner à l'autre la carte que vous avez devant vous. S'il devine juste, il prend cette carte. S'il ne devine pas juste, vous la gardez. Et lorsque vous avez quatre cartes identiques du chiffre identique, Vous tirez un brisé.
Ah, il faut avoir 4 bobolos.
Il faut avoir le nombre derrière, bobolo, qui est, voilà, 4 identiques.
Ouais.
Voilà.
Deux arêtes.
Voilà. Donc, je vous fais deviner, par exemple, soit en montant, soit en disant vrai, je vous dis, par exemple, j'ai deux arêtes, vrai ou faux. Et donc, vous devez essayer de...
Donc, alors, est-ce que j'ai deux arêtes, vrai ou faux?
Je peux dire faux, par exemple.
Voilà, ok. Voilà.
Et si vous retournez la carte?
Ouais, c'est deux.
C'est deux. Et si j'ai dit vrai, ça? Donc, je la gagne si j'ai dit vrai. Et si j'ai dit faux, vous la gardez.
OK.
Et si vous avez quatre cartes identiques, ça vous donne droit à...
Un poisson braisé.
Voilà.
Donc,
le vainqueur est celui qui a le plus de poissons.
On a présenté les jeux.
Oui.
Maintenant, il reste le jeu, le Semaï.
Semaï.
Ce sont des cases à cocher. Mmh. Ce jeu-là, c'est un jeu qui existe en bois. C'est ça ? C'est un jeu ?
Oui, en fait,
un peu.
C'est un jeu. C'est un jeu. D'ailleurs, j'ai un petit résumé que j'ai fait derrière celui qui est en blanc là. En me baladant au niveau des puces de Saint-Ouen, j'ai vu qu'ils étaient, ces jeux étaient vendus et ils m'ont inspiré. Je suis resté devant pendant quelques minutes. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ça et tout.
Vous savez en jouer, vous ?
Pas très bien, mais très bien. Ça, moi, je peux.
D'accord.
Enfin, moi, je joue beaucoup, donc j'apprends vite. J'ai conçu, comme avec les autres jeux, un modèle comme en disant, si on sortait du jeu en bois, comment on pourrait faire pour qu'on puisse jouer en raisonnant sans utiliser les pions, les pièces. Comment pourrait-on faire pour jouer seul si on n'avait pas d'adversaire? Voilà les deux questions que je me suis posées. Mm-hmm. Donc, on enlève le matériel, on enlève l'adversaire. Comment on fait? Donc, je me suis mis à réfléchir et puis j'ai sorti le jeu.
Comment on joue alors?
Alors, il s'agit de... c'est en plusieurs étapes en fait. Au départ, vous devez compter le nombre de points noirs d'une ligne. La ligne à 6 cases, voilà, une ligne.
Là, tout ça.
Voilà. Alors, le nombre de cases de la ligne sombre est parfaitement... Le nombre de cases noires est parfaitement identique au nombre de cases noires sur la ligne claire. Et puis, l'inscrire en bas à droite, là, en bas du chiffre.
Ouais,
là.
Ici, oui.
Et après, maintenant, vous devez choisir la case qui va vous permettre de remporter des points supérieurs au nombre que vous avez noté. Alors, il y a la règle. La règle, c'est vous devez partir d'une, vous devez distribuer les points noirs de la case que vous avez cochée de manière à partir d'une ligne vers une autre ligne. Vous ne pouvez pas rester sur la même ligne. Et vous les distribuez en reproduisant les unités de la case dans les cases successives. Vous choisissez le sens. Vous voulez arriver à la gauche, vous allez vers la gauche, à la droite.
D'accord.
Bon, okay. C'est un peu élaboré, mais c'est très facile. Hein.
Ouais.
Et vous devez terminer dans la case opposée, donc sur une case ayant deux points noirs ou un point noir. Si cette condition n'est pas remplie, ben, le jeu n'est pas valide. Si vous distribuez les points noirs en vous arrêtant sur la ligne de départ, le jeu n'est pas valide. Donc vous avez deux conditions de validité du jeu, c'est ça. Et après, dans la case opposée, vous devez cocher toutes les cases qui n'ont pas reçu un point noir de la case voilà et valider les cases où il y a un point noir ou deux là où vous êtes arrêté qui sont successivement alignées, sinon les autres cases bien qu'il y a reçu un point noir seront éliminées aussi, écartées aussi, et du coup on peut de la somme des cases restantes.
Ouais, c'est un peu compliqué pour moi.
C'est très plaisant quand, ouais, quand vous y arrivez. Hein.
Oui, je c'est un peu comme le sudoku, ça me fait penser à ça. Hein? Voilà.
Il faut s'entraîner.
Oui.
Oui, je pense qu'il faut s'entraîner. Il faut de la concentration pour
alors,
jouer à ce jeu aussi. Hein.
Non, en termes, par exemple, quand vous avez compris le principe, ça devient très rapide puisque la difficulté, elle est... Niveau CE2, enfin.
C'est... Donc, ça veut dire que j'ai un tout petit niveau parce que je n'ai pas compris.
Ah, Marie. Là,
non, mais parce que vous le découvrez, c'est tout.
Il va falloir s'améliorer.
C'est marrant. Oui, ok. Donc, alors, ce jeu à cocher, il est commercialisé ou pas?
Ben, en tout cas, rien de ce que j'ai fait n'est commercialisé à part les deux livres.
Il y a deux livres. Vous avez écrit deux livres. Alors, il y a la conjugaison, bilingue, banor, français, des verbes chez les Batanga du Cameroun. Ce sont des verbes conjugués en français. C'est... Ah là là, comment vous faites? Pourquoi vous avez fait ça? Ingedindi.
En fait, c'est la suite du premier, en fait.
Il y a le passé simple. Epédé, tombi, ebembe, c'est du passé simple indicatif. C'est un dictionnaire, voilà. C'est un dictionnaire, c'est ça? Non, c'est pas un dictionnaire, c'est de la conjugaison, pardon. Si, c'est un dictionnaire, c'est écrit dessus.
Oui, il y a une partie de dictionnaire à la fin du...
Voilà. Donc, pourquoi vous avez créé ce livre? On en trouve très peu, hein, des livres pour traduire surtout la conjugaison de d'autres langues en français.
J'avais fait ce premier livre et qui m'a valu...
Banor, logique et éléments de la langue chez les Batanga.
Voilà. Et donc, quand je l'avais écrit, j'avais parlé de la conjugaison dans un petit paragraphe. Et je disais que les verbes pouvaient être conjugués. Comment conjuguer les verbes, par exemple, en anglais ou en français. Et on m'a opposé vraiment un non catégorique que ce n'était pas possible. Les gens qui travaillaient dessus au Cameroun, ils m'ont dit c'est pas possible. Okay. Et je ne comprenais pas très bien là, comment ça se passait que ce soit pas possible. Et donc j'ai produit ce livre pour montrer que c'était possible.
Ça c'est possible, mais celui-là c'est pas possible. Aucun problème.
Non, c'était pas possible parce que c'était, je l'évoquais, je ne faisais pas ce travail, je n'avais pas fait ce travail, j'évoquais, je parlais de ce travail et on me disait c'était pas possible que je le fasse.
Oui.
Parce qu'on ne pouvait pas conjuguer les verbes dans nos langues. Okay. Je dis c'est pas possible qu'on puisse pas conjuguer les verbes dans nos langues.
Donc vous avez prouvé que c'était possible.
Voilà.
Voilà, ok, d'accord. Donc ces deux livres-là, on peut les retrouver quelque part?
Oui, ils se retrouvent, ils sont sur Amazon en fait.
Voilà, donc on peut le commander. Il n'est pas en librairie?
Non.
Pourquoi? Est-ce que vous l'avez présenté au Salon du Livre, par exemple?
Oui, j'avais été invité au Salon du Livre et je l'avais présenté là-bas.
Et les gens sont venus à votre stand
Mais, vous savez, il y a beaucoup de passages et puis...
Oui.
Les gens...
Vous avez signé des exemplaires
Non.
Les gens sont venus vers vous, vous ont posé des questions un peu Non.
Et pas vraiment, il y a eu quelques personnes qui posaient des questions, mais pas...
Mais est-ce qu'il y en a qui sont repartis avec le livre ou pas?
Non, je n'ai pas vendu des livres.
D'accord, avez offert?
Mais c'était mon éditeur qui s'en occupait, donc moi j'étais juste venu parler du livre.
C'était surtout pour le présenter?
Oui, c'est ça. Et oui, il y avait un public dans le stand,
voilà.
Un public de passants, c'est au sein du livre, ça circule et tout. Oui.
Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos créations, de vos écritures quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à tout ça, aux 5 jeux créés, 2 livres, une centaine de peintures qui sont enfermées dans un placard, personne ne peut voir?
Ben, je continue d'écrire, de peindre.
Et en puis, silence
Non, pas en silence, parce que j'en parle autour de moi aussi. J'ai un de mes supérieurs qui m'a conseillé d'écrire un centre, je ne sais pas, je me souviens très bien, sur Paris. Et j'ai eu l'honneur d'avoir le directeur du CNRS qui m'a répondu et qui souhaitait discuter avec moi là-dessus, sur ces livres-là justement.
Le directeur de ?
Du CNRS.
Et pour le jeu sur la propreté, vous allez le proposer maintenant
Oui.
Bientôt.
Ça, c'est un cours. Je vais revoir
le musée.
Le musée, mais en fait c'est pas vraiment le musée parce qu'il y a une partie musée, c'est le centre où on forme les éboueurs. On a un petit musée là-dessus.
Et vos collègues, vous avez joué à ce jeu avec vos collègues?
Pas beaucoup le temps.
c'est vrai. Mais en dehors du travail, vous avez proposé à vos collègues d'essayer?
Après, vous savez, on vient tôt. Moi, je pars à 4h du matin de chez moi. Quand c'est fini, je rentre tout de suite.
Et vous filez faire des peintures, créer des jeux et des livres. Voilà.
Pour revenir de petites minutes sur les livres, tout à l'heure, vous avez dit que vous en aviez 3. Le troisième, du coup, comment il s'appelle? Vous pouvez nous faire un petit résumé?
Alors, le troisième, c'était c'était ma première nouvelle. Le titre était La conquête du A.
Oui.
Et il s'agit de. C'était une question qui m'avait été posée par une amie en 93. Elle me demandait mais pourquoi on vit en France, pourquoi on est venu en France et tout. Alors, j'étais un peu surpris de cette question parce qu'on n'a pas. On ne s'est pas concerté en disant on va en France. Chacun a son projet personnel, son projet de vie. Et je n'ai pas compris la question. Et j'ai essayé de lui dire, mais ta question ne parle pas. Parce que les raisons pour lesquelles je suis venu en France, ce n'est pas les mêmes pour lesquelles tu es venu, pour une tierce personne. Et on ne se comprenait pas. Et donc j'ai fait le livre à partir de cette incompréhension. Il s'agissait de 2 personnes qui immigraient, qui voyageaient et tout. Mais c'était comique parce que je prenais la trame de Cervantes dans Don Quichotte, entre Sancho Panza et Don Quichotte, et je suis cassé rigolote.
Et donc, d'accord. Voilà. Et vous ne l'avez pas ramené avec vous?
Je l'ai pas ramené.
Ok, d'accord.
Et on peut le retrouver au même endroit que les 2 autres?
Oui, oui.
Alors, cette interview est passionnante, franchement, Monsieur Mens. Je vous trouve passionnant. Voilà. Nous avons une invitée dans le studio, puisque c'est les journées portes ouvertes. Véronique Brechler, vous voulez peut-être, vous avez assisté à l'interview depuis le début, peut-être que vous voulez poser une question. Vous voulez poser une question ?
Alors moi, je n'ai pas de question, mais en tout cas, je suis impressionnée parce que je trouve que vous êtes un amoureux de la vie. Je trouve que tout ce que vous avez créé jusqu'à présent, ça s'est produit sur votre chemin. Et je vois combien vous regardez la vie, combien vous regardez les choses autour de vous. Alors si du coup j'ai peut-être une question sur votre peinture, lorsque je l'ai vue, j'ai eu le sentiment que c'était des joueurs, là vous les avez trouvés peut-être sur votre chemin. Et je me suis demandé si c'était d'après les petits joueurs du baby-foot que vous avez créé autour, ou si c'est d'abord la peinture et après avoir rajouté les éléments. C'était une question.
J'ai pas envie de vous faire pleurer. En fait, c'est un tableau triste, en fait, que j'ai transformé en joie. Si vous regardez le tableau et vous regardez le public, vous allez voir la tête d'une petite fille.
On retourne.
Ah oui, on y retourne.
Là-bas à gauche, oui.
On va la trouver.
À gauche, la grande, là. C'est un grand visage.
Oui, là. Mais c'est ce que je dis. On voit quelque chose. Quand on regarde, il y a un autre tableau.
L'histoire cachée, c'est ça.
Voilà.
C'est ce que Marie vous avait dit.
Oh, on vous écoute.
Eh bien, ce tableau, je l'ai fait. J'étais en pleine séparation de mon ex-compagne. Et ma petite fille, qui était très attachée à moi, qui est toujours très attachée à moi. Elle a souffert, elle a même perdu l'usage de la langue. Enfin, elle parlait, elle se met à zozoter, enfin, c'était incroyable. Et moi, j'avais baissé les bras par cette situation, mais sa force, elle m'a donné la force de lutter. Et quand j'ai pu remonter la pente, je me suis rendu compte que c'était grâce à elle, en fait, grâce à sa volonté de ne pas me laisser partir, en fait. Et donc, j'ai pu remonter la pente et j'ai retransformé le tableau qui était fait uniquement de son visage au départ. Et j'ai rajouté le jeu qui est ma passion et le football qui est mon autre passion.
Il y a c'est celui-là, c'est cette peinture-là. Oui. On voit un visage.
Oui.
Moi, je vois un visage ici. Là, un œil, l'autre œil crevé.
Ah oui, effectivement, oui.
On voit un visage, il y a un visage d'une femme sur, il y a un œil crevé.
Fermé.
Je vois. Oui.
Voilà. Alors, est-ce que ce visage-là était là auparavant et vous avez fait une nouvelle peinture dessus ou pas?
Quand c'est ancien comme ça, je ne sais plus vous dire, en fait, je ne sais plus. Okay. Quand c'est frais comme celui-là, je peux encore dire quelque chose, mais c'est bon, après ça. En fait, vous avez dit quelque chose sur l'amour de la vie qui me parle, en fait, dans ce sens que je ne me laisse pas démoraliser par les choses négatives. Je les encaisse et j'essaie de voir le bon côté, de voir le verre à moitié plein, on va dire ça comme ça.
C'est la résilience, ouais. Justement.
Et vous aimez créer.
Oui.
C'est la création qui vous anime.
Et donc, vous n'avez pas à vous dire ma petite question. Les petits bonhommes du baby-foot, vous les avez trouvés, enfin cherchés après la peinture ou...
Oui, c'est ça, c'est après. C'est-à-dire que je ne les ai pas cherchés, mais je les ai achetés au puce. Au puce, où je me balade beaucoup. J'avais déjà tout fait et puis je me suis dit, mais je peux rajouter ces éléments-là dans le tableau. Alors, ce qui va paraître surprenant, c'est que les ombres ont été mises après les joueurs. Mais oui, c'est logique, en fait, les ombres viennent après. Mais normalement, les ombres auraient dû être avant, mais les joueurs sont arrivés. J'ai dû démonter les joueurs pour mettre des ombres et puis remonter les joueurs.
Et dans la plupart de vos peintures, il y a toujours des reliefs comme ça, avec des objets?
Non.
C'est tous très différents. Hein.
Ils sont tous différents. Mais j'aime sentir que je crée, en fait.
Quand vous étiez petit, vous avez déjà fait ce genre de choses?
Non, quand j'étais petit, j'avais plutôt d'autres rêves artistiques. J'aurais aimé être chanteur, musicien, mais ça, j'ai pas su faire. Mm-hmm. Et footballeur, parce que j'avais peu de talent.
Claude Mens, merci d'être venu partager votre passion avec les auditeurs pendant ces journées portes ouvertes. Si on veut vous joindre, comment on fait? Si on veut vous contacter pour, par exemple, on veut vous proposer d'exposer vos œuvres quelque part. Comment on fait? On va sur votre site?
J'ai mon mail.
Sur votre site, il y a votre mail.
Voilà, Claude Mil, K-L-O-D-M-I-L, @hotmail.fr.
Bonne continuation et merci d'être venu au studio.
Bonjour, c'est Claude Mentz, vous écoutez Alternative FM.
C'était Alternative Positive sur le 106.5. La parole aux artistes du Val d'Oise.